talmudique. De l'école peut dépendre la survie d'une société et sa capacité à se construire, évoluer et perdurer. Elle est, comme le rappelle une professeure de philosophie, Marilyn Maesso, dans un vibrant hommage à Samuel Paty, ce lieu sans verrou et aux mille fenêtres où nos convictions, nos a priori, nos préjugés quittent le confort de notre intimité pour s'observer à la lumière du jour. Fin de citation. Notamment parce que l'école est le lieu du temps long de l'étude et de la réflexion qui oriente l'action autant que l'espoir d'une transmission réussie. Cette valeur cardinale de l'étude et de la transmission oriente le judaïsme comme l'enseigne le Midrash Rabba qui traduit le premier mot de la Genèse, Bereshit, par le mot grec, pédagogue, celui qui emmène l'enfant à l'école. En témoigne aussi ce récit du Talmud que je cite souvent. Juste avant la destruction du temple, signifiant la disparition même de la civilisation juive, Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des grands maîtres, se vit accorder une faveur exceptionnelle par l'empereur romain Vespasien. Il pouvait faire la requête de son choix sans discussion, elle lui serait accordée. Contre toute attente, le maître demanda l'autorisation de construire une école. La demande pouvait sembler incongrue ou irresponsable. Et pourtant, on sait le devenir de cette confiance dans l'étude des textes et de leurs commentaires sans cesse renouvelés. Une civilisation fut sauvée, et avec elle, une certaine idée de l'humain travaillée par l'altérité dont Emmanuel Lévinas souligne la portée universelle. À ce titre, le judaïsme est riche de ressources pour penser les processus culturels complexes, complémentaires et antagonistes qui sont à l'œuvre dans la mondialisation et contrer ce qui peut être, notamment, la mise à mal du principe républicain de laïcité et la possibilité du dialogue fécond entre les cultures qu'il promet et qu'il garantit. Une récente publication parue aux éditions Albin Michel, sous la direction de l'anthropologue Edith Bruder, intitulée « Juif d'ailleurs », sous-titrée « Diaspora oubliée, identité singulière », nous rappelle que le judaïsme et l'ensemble des pensées sécularisées qu'il a contribué à construire et qui l'ont construit en retour doit se penser avec de nombreuses communautés quasiment ignorées parce que peu documentées. Leurs histoires sont de fait particulièrement éclairantes pour nous aujourd'hui. Comment ces minorités juives, implantées dans de très nombreux pays du monde, communautés parfois autoproclamées, composent-elles avec leur environnement politique et religieux ? Quelle transmission et quelle forme d'études ont assuré et assurent leur pérennité ? Quelle expérience de l'altérité peuvent-elles partager ? En quoi leur maintien au sein des sociétés indiennes, chinoises, africaines, russes, turques par exemple, est-il susceptible de nous orienter face aux revendications identitaires qui déstabilisent les démocraties occidentales et particulièrement l'idéal républicain français ? Edith Bruder, bonjour.
Bonjour.
Edith Bruder, vous êtes anthropologue du fait religieux et chercheuse associée au CNRS et à l'Université d'Afrique du Sud et à l'ISGAP à New York. C'est un plaisir de vous recevoir dans Talmudic où nous vous avions déjà reçu à propos des Black Jews, ces communautés de juifs africains ou d'origine africaine. Les recherches que vous nous proposez aujourd'hui concernent d'autres communautés actuelles ou anciennes à travers le monde, de l'Amérique du Sud à la Chine en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient, la Russie orientale et l'Inde. Plus d'une trentaine de chercheurs vous accompagnent dans cette aventure et pour mieux découvrir quelques-unes de ces communautés, j'aimerais comprendre quel était pour vous l'enjeu de ces recherches et quelle résonance elles prennent pour vous aujourd'hui dans le contexte d'affirmations identitaires ultra-violentes auxquelles nous sommes confrontés.
Cet ouvrage est en fait né d'un constat. On connaît peu, pour ne pas dire pas du tout, les groupes et les communautés juives qui ne sont pas classés dans les rubriques Ashkenaz ou Sépharad. Or, il existe bien des groupes qui sont tout à fait hors de ce champ et qui se situent dans un ailleurs qui nous est très étranger et qui fonctionnent tout à fait autrement.
Par exemple, les communautés d'Inde et de Chine dont nous allons parler, mais pour commencer, je crois qu'il est important d'élucider un des termes qui se trouve dans votre sous-titre, c'est le terme de diaspora. Le succès de l'usage d'un mot est toujours surprenant. Diaspora fait partie de ces mots qui n'ont de cesse de poursuivre leur carrière en modifiant leur signification au cours de leurs multiples pérégrinations à travers les espaces géographiques et politiques. En ce qui me concerne, je dirais que c'est un mot qui fait rêver. Est-ce par l'exotisme subliminal dont il est porteur, ou peut-être la beauté de sa sonorité, ou bien la richesse de son étymologie? Je ne sais pas, mais Edith Bruder, d'où vient le succès de ce mot? Et qu'est-ce que la diaspora?
Alors, le succès du mot vient à, comment dire, à son usage, parfois abusif. Aujourd'hui, ce mot a complètement perdu sa dimension première, qui était attachée au destin du peuple juif, c'est-à-dire aux exils différents et aux châtiments qu'incarnaient ces exils. Donc il y a deux notions dans diaspora. Il y a l'idée d'être dispersé et il y a l'idée d'être puni, mais dans l'attente d'un renouveau, dans l'attente d'une réunion qui abolirait cette étape.
Alors, dans le texte biblique, le terme diaspora, dans la Septante, par exemple, la traduction grecque, traduit le terme de semer.
Oui, semer au-delà.
Voilà, il est beau de rappeler que diaspora, c'est un terme grec, dia qui veut dire au-delà ou à travers, et spero, le verbe qui veut dire semer. La référence que vous nous donnez au départ, c'est cette référence biblique où le peuple juif part en exil et va se retrouver dans une première diaspora qui est la diaspora babylonienne. Et par la suite, il va y avoir d'autres diasporas qui sont celles que nous connaissons aujourd'hui, mais sans cette dimension de punition. Et il semble que ce terme de diaspora, qui d'abord parlait des juifs en exil, a pris un sens pour l'ensemble des communautés humaines.
Absolument. Ce terme, qui au départ était attribué aux juifs, s'est étendu par la suite, aux grecs aussi, s'est étendu par la suite aux africains et à d'autres. C'est à partir des années 60 que ce terme a connu une diffusion extrêmement importante au niveau des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on a commencé à considérer qu'il y avait toutes sortes de diasporas, notamment des diasporas économiques, et que son usage a été surmultiplié par rapport à tous les différents déplacements ethniques, communautaires, religieux ou pas, dans tous les pays du monde. Bien sûr, c'est en rapport avec notre société de la communication, de l'information, la démultiplication des transports, et le fait que les gens s'exilent pour tout un tas de raisons économiques.
Vous avez cherché à débusquer des mondes endormis ou peu connus. Quelle a été votre démarche et celle des chercheurs qui vous ont accompagné? Et sans bien sûr les citer tous, qui sont ces chercheurs? À quel domaine de savoir appartiennent-ils? Je pose cette question car vous insistez sur la transversalité et l'interdisciplinarité que requièrent les recherches sur les diasporas, Edith Bruder.
Oui, l'idée c'était d'ouvrir cette recherche dans l'esprit, d'assouplir complètement la moindre projection monolithique d'une identité juive. Donc, je me suis entourée de chercheurs qui étaient flexibles dans leur approche de la judéité, qui étaient tout à fait prêts à contourner des idées conventionnelles de la religion, à étendre leur réflexion sur le fait que les histoires de ces communautés étaient peut-être religieuses, mais aussi civilisationnelles. Ça, c'est un point très important. Et les groupes dont on parle dans ce livre, pour beaucoup, sont des civilisations. Les histoires de ces groupes se dégagent de toute affirmation d'un dénominateur commun, généalogique, culturel ou religieux unique. C'est-à-dire que, à partir du moment où un groupe garde ses traditions, les affirme dans un univers et un environnement qui n'est pas conforme à ces traditions et garde un lien qui soit réel ou imaginaire avec la notion de judéité, nous avons considéré qu'il pouvait être étudié, analysé dans cet ouvrage.
C'est-à-dire que certains groupes ne sont pas nécessairement juifs, mais s'affirment comme juifs dans leur imaginaire personnel.
Oui, tout à fait. Ils ne seraient pas reconnus par une instance religieuses, ils n'en ont pas moins un passé et des traditions juives qu'ils revendiquent. Je pense notamment aux Dolmés de Salonique qui sont musulmans mais qui ont été juifs et qui ont conservé des traditions auxquelles ils sont attachés.
Il semble, en vous lisant, Edith Bruder, qu'au-delà de l'aspect historique et anthropologique, l'étude de ces communautés permet d'éclairer ce qui est devenu un problème majeur des États démocratiques et laïques, alors même que c'est évidemment une richesse, la diversité des cultures et la notion de multiculturalisme est au cœur de cette diversité. L'un des articles en ouverture de l'ouvrage s'intitule « Diaspora, un paradigme du multiculturalisme ». C'est un article que vous avez écrit. Multiculturalisme est un mot qui est aujourd'hui l'objet de définitions différentes et parfois contradictoires. Edith Bruder, qu'entendez-vous par le mot multiculturalisme et en quoi ces diasporas pourraient être un paradigme du multiculturalisme contemporain?
Alors, c'est un vaste sujet que je vais essayer de resserrer au maximum. Dans la projection de l'État-nation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, donc on se réfère à la devise du sceau des États-Unis qui est « et pluribus unum », qui regroupe énormément d'identité, ou bien en Europe ou en France, au fait que les Juifs et autres peuples venus d'ailleurs qui se sont intégrés l'ont fait en vivant leur identité spécifique de façon familiale, mais en étant partie d'un groupe sans revendication de cette identité. Si on considère ces éléments, on peut dire que le multiculturalisme n'est pas du tout survenu comme quelque chose, une notion évidente au départ, puisque la notion évidente au départ, c'était l'assimilation. Vous saisissez paradigme au sens de modèle. En fait, je crois que la façon dont il est proposé dans l'ouvrage, c'est un sens de représentation. C'est pas un modèle. Un modèle, c'est ce à quoi on tend. Alors qu'une représentation, c'est ce qui est de fait. Les Juifs, les sociétés, les communautés, les groupes auxquels nous faisons référence dans cet ouvrage ont été ou sont les précurseurs des sociétés multiculturelles. Ils incarnent cette intégration dans un milieu différent, avec la conservation, la protection de traditions anciennes, de cet attachement à un point qui est extérieur géographiquement, tout en étant complètement intégré. Je vais vous citer les Bnei Israël de la côte du Concan en Inde, qui était un groupe quasiment isolé jusqu'au XVIIIe siècle et qui a maintenu son monothéisme et ses traditions juives dans un environnement hindouiste polythéiste.
Certes, mais à ce moment-là, nous sommes en face de ce qu'en France nous appelons la laïcité, c'est-à-dire la possibilité de pratiquer un culte qui ne remet pas en question l'unité de la nation sur ses valeurs fortes que sont par exemple l'égalité, la liberté et la fraternité. Donc pourquoi parler de multiculturalisme alors qu'on pourrait parler de laïcité? Edith Bruder.
Parce que, écoutez, on parle de l'Inde. La laïcité n'est pas une notion que j'ai trouvée dans les récits ou recherches de mes collègues. Par contre, la notion de respect de l'identité religieuse de l'autre, oui, je l'ai trouvée. Donc les Juifs d'Inde, quelles que soient les communautés, il y en a eu de nombreuses, je n'en ai cité qu'une, qui est peut-être probablement la plus ancienne, puisqu'elle remonte à l'an 170. Donc, enfin, c'est la tradition orale de ce groupe qui nous le raconte. Ils n'ont jamais été persécutés, ils ont toujours été estimés, considérés et respectés. Donc, sans qu'il s'agisse de laïcité, c'est un mot à nous. Ce n'est pas un mot qui est adaptable à toutes les cultures. Dans la mesure où ce livre est tout sauf centré sur la France, vous l'avez vu, donc bien sûr on peut faire le rapprochement, mais si on considère bon nombre de ces communautés, je ne parle pas de celles qui ont connu des sorts tragiques, c'est encore une autre histoire, mais bon nombre de ces communautés ont acté, ont réalisé leur identité dans des conditions qui, sans être forcément tragiques, sans être ostracisés en tant que communauté, n'était pas toujours simple.
Vuslatını can ile itmedeyiz.
Pares de la silla del din.
Aşık müştakın şimdibiz ey
mahkum.
Tekkeyi aşkında hep çekmedeyiz. Ay, hu. Rahmet hep aşıklar. Sezai vika. Rahmet hep aşıkların itme. Sezai vika.
Anime Dömne, l'une de ces diasporas dont il est question dans l'ouvrage « Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière » et vous en avez parlé, Edith Bruder, un hymne particulièrement intéressant car en écoutant, on s'aperçoit qu'il est chanté et accompagné de murmures subtils en trois langues, en turc, en ladino et en hébreu. Cette communauté crypto-juive de Salonique que l'on retrouve en Turquie, tout comme les subotniques de Russie et les caraïbes de Crimée, constituent des diasporas cachées et peu mises en lumière par le récit officiel du judaïsme traditionnel. Et en ayant choisi de les introduire dans cette grande fresque des diasporas juives plus classiques, comme les juifs d'Inde, de Chine, d'Afrique, qui revendiquent une relation forte au judaïsme et une appartenance réelle ou fantasmée, quel paysage mental contribue-t-elle à modeler, Edith Bruder ?
L'idée d'un paysage mental très flexible, dans la mesure où les donmés, par exemple, sont issus de la vision du judaïsme, d'un certain Sabbatai Zvi, qui est né au XVIIe siècle dans une famille de Smyrne. Et ce groupe, qui est un groupe dont l'identité est le produit d'une expérience extrêmement complexe, s'est lui-même divisé en de très nombreux groupes. Donc, ni ethniquement turc, ni musulman orthodoxe, mais pratiquant, étant musulman de fait, mais pratiquant l'islam avec des traditions issues des traditions juives. Ils sont l'incarnation de ce que nous avons appelé dans cet ouvrage des identités singulières. Il y a des identités singulières qui ont perduré, puisque c'est une notion qui remonte au XVIIe siècle. Je ne vous dis pas qu'il reste beaucoup de donmés. Les péripéties de leur histoire sont abondamment décrites dans l'ouvrage, mais sans qu'ils soient une force extrêmement vivace de nos jours, ils sont parvenus, avec une identité des plus difficiles à porter, a traversé plus de 3 siècles.
Parce qu'ils ont transmis en secret.
Parce qu'ils ont transmis en secret, parce que selon les situations et les gouvernements, ils ont été plus ou moins tolérés et se sont adaptés. La question de l'adaptation à des normes politiques qui pouvaient être rejetantes ou inclusives ont beaucoup joué en leur faveur ou en leur défaveur. Ils ont pu. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont essaimé en de très nombreux groupes. Chacun ayant son identité propre. Ils étaient donc pas très faciles à repérer comme un groupe. Ça a joué en leur défaveur. Ils étaient très dispersés, très disséminés, en leur faveur. Ils n'étaient pas une vraie cible très identifiable.
Retournons, si vous le voulez bien, au grand groupe identifiable, justement, de ces Juifs d'ailleurs et de ces diasporas oubliées, ou en tout cas peu connues. Vous en citez de très nombreuses, mais il y en a deux qui sont plus marquantes. Je pense aux communautés des Juifs de Chine et des communautés des Juifs d'Inde, Edith Bruder.
Oui, en effet. Alors, j'ai évoqué les Béné Israël. Les Béné Israël ont une très très belle histoire. Bien sûr, c'est de la tradition orale. Leur groupe, leur communauté serait issue d'un naufrage.
On parle des Juifs d'Inde, c'est
oui,
ça
oui. Mais les Juifs d'Inde sont composés de très nombreuses communautés, dont les Béné Israël font partie et qui sont probablement les plus anciens. Leur histoire, leur mythe d'origine, nous raconte qu'un bateau a fait naufrage au large des côtes du Konkan, près de Navgaon. 7 hommes et 7 femmes ont été sauvés. Ils ont enterré ce qui était noyé sur 2 buttes qui peuvent encore vous montrer. Je vous dis, c'est là. Et ils se sont installés là. Ils ont poursuivi leur tradition telle qu'elle l'était. Ils sont devenus presseurs d'huile pour la plupart. On les appelait les chats noirs téli, c'est-à-dire les presseurs d'huile du samedi, parce que eux, leur jour chômé, était le samedi. Ils ont maintenu leur monothéisme dans une société polythéiste. Ils sont restés ce qu'ils étaient, ont été découverts, entre guillemets, par un certain David Rahabi, qui était un fils d'autres juifs d'Inde, de Paradésie de Cochin. Et au 18e, et il les a découverts. Pour s'assurer de leur judéité, il a bien vu qu'ils respectaient la Torah orale. Il a demandé aux femmes de lui préparer un poisson. Et c'est la façon dont elles ont choisi ce poisson qui l'ont convaincu de leur identité. Ils ont pratiqué la circoncision, l'abattage rituel, seuls, dans leur univers, en pratiquant l'endogamie jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a 80 000 environ Béné Israël, dont seulement 3 000 en Inde. Les autres sont en Israël, où ils sont intégrés avec leurs activités, où il y a encore des chants malayalam dans leur langue, etc. Cependant, ils conservent leur identité culturelle, diasporique, en Israël. En Inde, il y a également les Juifs de Cochin. Ça a toujours été une plus petite communauté. Les Juifs de Cochin ont la caractéristique qu'ils se distinguaient entre les Blancs, les Paradésis, et les Noirs. Je mets Noirs entre guillemets parce qu'ils ne sont pas Noirs, ils sont
foncés.
Plus foncés. Les Malabaris, plus une troisième catégorie, les Meshurarim, qui étaient d'anciens esclaves affranchis et qui étaient en quelque sorte des membres de second rang des Paradésis. Cette communauté maintenant quasiment, elle a disparu de Cochin où il demeure une synagogue absolument ravissante. Ils ont été dans les 2300-2400 dans les années 1950 au plus haut de leur existence. Maintenant, il y en a 8000 d'entre eux en Israël et sur place, même pas de quoi faire une prière.
Et alors, qu'est-ce qui les a maintenus dans ce judaïsme ? Est-ce que la transmission, l'école, comment vous avez compris ce phénomène sociologique ?
Alors, d'une part, on pense qu'à l'origine de ces paradésies et malabaris, c'est plus indistinct. Il y a l'Inquisition et l'arrivée de séfarades au XVIe, XVIe, XVIe siècle en Inde. C'est le premier point. Donc, ils avaient toutes les connaissances et la transmission s'est faite de façon familiale et habituelle. Ensuite, ils ont certainement été rejoints par des juifs irakiens. Et c'est un amalgame qui s'est créé entre les uns et les autres pour former cette communauté. Donc, ils avaient la connaissance de l'hébreu, ils avaient la connaissance des traditions, des rituels, des fêtes, et ils ont continué à les pratiquer, mais de façon indépendante des Béné Israël, dont ils ne connaissaient pas l'existence jusqu'à ce que ce fameux David Rahabi rende visite aux Béné Israël.
Alors, il y a tous ces groupes, les diasporas historiques connues, les diasporas moins connues, qui s'enracinent dans des mythes divers, dont celui des tribus perdues. Il y a les diasporas secrètes, comme on a évoqué avec les Demné. Quelle est la diaspora qui vous a le plus intrigué ou passionné, Edith Ruder?
Alors, je dois vous dire que je suis fascinée par l'expérience des Juifs de Kaifeng. Cette Kaifeng, c'est en Chine. Il n'y a plus aujourd'hui d'existence juive concrète en Chine, enfin à Kaifeng, dans la mesure où les Juifs n'étant pas reconnus comme une minorité, l'existence de cette communauté est niée. Mais il y a par ailleurs dans d'autres villes de Chine des synagogues où le visiteur peut se rendre. Ce qui signifie qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas bon d'être descendant d'un Juif de Kaifeng, mais si vous y allez, vous, juifs européens, vous n'aurez pas de problème pour assister à une cérémonie. Les juifs de Kaifeng, il semblerait qu'ils soient apparus dès l'ère Tang, c'est-à-dire entre le 7e et le 10e siècle. Cette communauté ou ces groupes ont été totalement ignorés, et du monde juif, et des Chinois qui n'y accordaient absolument aucune importance. La connaissance de ce groupe s'est faite par un missionnaire jésuite, Matteo Ricci, qui est très connu. Il cherchait des groupes à évangéliser et il est tombé sur ce groupe-là, avec tout un tas d'anecdotes amusantes et de confusion identitaire, puisque la tradition rapporte que la première rencontre a fait que le rabbin qui l'a reçu voyait en lui, bien sûr, un autre rabbin. La culture des Juifs de Kaifeng est une représentation idéale du syncrétisme religieux. On priait dans une synagogue construite, bien sûr, sur le modèle d'un temple chinois. On priait en hébreu tout en révérant les défunts en brûlant de l'encens. Il y avait un syncrétisme également qui associait Abraham, Moïse et Confucius. Il existe une stèle et différentes inscriptions qui sont en cours de disparition datant de 1489, qui est un témoignage très ancien. L'empereur de l'époque permettait aux Huihui à chapeau bleu, c'était le nom des Juifs. Les Huihui, ça couvrait les Huit, étaient les musulmans, les Huihui étaient les Juifs à chapeau bleu, de maintenir leur identité. Donc, vous voyez, ils étaient intégrés. Il n'y a jamais eu d'antisémitisme en Chine à l'époque ou aux époques précédentes. Aujourd'hui, il y a une répression très forte. Il avait été prévu que cette synagogue soit restaurée, rénovée. Et il y a eu un accord de reconstruction et qui a été signé en 93 et stoppé en 96. Donc les Juifs de Kaifeng aujourd'hui sont soumis au silence, sauf qu'il existe, quand c'est possible, Internet, qu'ils revendiquent les descendants de ce groupe qui a représenté quelques milliers de personnes, pas des dizaines de milliers, sont très actifs. Ils ont organisé des tours à l'époque où c'était possible pour que des visiteurs viennent voir les vestiges. Il y a une photo dans l'ouvrage de la synagogue qui est maintenant dans un état, bien sûr, totalement en ruine. de manière à maintenir ou à réactiver. Et la reconstruction de cette synagogue laissait penser et rêver à cette notion de syncrétisme sino-judaïque qui aujourd'hui, disons, est à l'arrêt. Peut-être momentanément seulement.
Merci Edith Bruder pour ce voyage complexe à travers les diasporas, ces communautés semées au loin qui par leur originalité, leur courage, leurs choix parfois compliqués, leurs rites et leurs récits nous ouvrent des horizons de pensée inédits qui invitent à la fois au rêve et à la réflexion, un modèle peut-être sous certaines conditions et dans certains pays pour les sociétés contemporaines. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Juif d'ailleurs, sous-titré Diaspora oubliée, identité singulière aux éditions Albin Michel, plus d'une trentaine de contributions dont les vôtres et celles de Julien Darmon qui est aussi le traducteur des contributions en langue anglaise, un livre passionnant qui réserve de très belles surprises. Merci encore Edith Bruder.
Merci à vous.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Valérie Lavalard, à la réalisation Alexandra Malka. Kol tov, le Itraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.